بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Chers frères en islam, inshallah, ce soir on complète, inshallah, on complète surat al-Qalam. Il nous reste à voir deux points essentiels. Après les annonces concernant l'au-delà et concernant la situation de ces zalims, de ces oppresseurs, et la justice d'Allah qui aura lieu le jour de Qiyama, justice parce qu'il y aura le châtiment qu'ils méritent, mais justice également parce qu'au moment où les gens vont se jeter en prosternation, eux ne pourront le faire et il n'y a pas plus grande tristesse, il n'y a pas situation, on va dire, plus préoccupante ou plus catastrophique que celui qui n'arrive pas à se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Les savants disent que celui qui s'était prosterné avec sincérité de ce dunya pourra se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Et comme on avait dit en conclusion, ça doit être un de nos du'as régulièrement, chaque jour. Ya Allah, choisissez-moi, accorde-nous cette chance et ce tawfiq de faire partie des personnes qui se jetteront en prosternation devant toi le jour du mahshar, ce qui sera une preuve de notre sincérité et que notre parcours de ce monde aura été accepté par Allah Azza wa Jal. Après avoir cité ces événements, Allah Azza wa Jal fait une nouvelle reproche, on va dire, au Quraysh, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun, ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire les accablant ainsi d'une lourde dette? C'est-à-dire que est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam demandait une rétribution au Quraysh en échange de la prêche de la da'wa ou pour accepter l'islam? C'est Allah Rabbul Izzah met en avant le fait que le prophète le faisait avec ikhlas, avec sincérité, et qu'il ne leur demandait rien en retour. Il ne leur demandait rien en contrepartie. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens n'acceptent pas le message? Et on va voir dans le verset suivant, « Am indahumul ghaibu fahum yaktubun » ou « savent-ils l'inconnaissable ?» Et c'est de là qu'ils écrivent leur mensonge. C'est-à-dire que, ou alors, ils ont une autre source. Alors, pour voir pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas le message, soit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait en contrepartie, ben, ils ne pouvaient pas le faire, chose qui n'est pas vraie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait avec sincérité et pour Allah azza wa jal, ou alors ont-ils une autre source qui leur donne d'autres informations concernant l'au-delà? Ont-ils un autre enseignement qui va à l'encontre de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de prêcher, qui fait qu'ils préfèrent suivre cette autre source? Bala, non plus. Parce que les Quraysh ne croyaient même pas à la vie après la mort, ils ne croyaient même pas à la résurrection. Donc en conclusion, ça veut bien dire que la seule chose qui les empêchait d'accepter la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Ibn Kathir rahimahullah, il a cité ces trois awamil, c'est al-kufru wal-inad wal-takabbur. Vous avez noté quelque part, c'est la mécréance, c'est également la fierté, l'orgueil, le fait de ne pas vouloir se soumettre. On avait dit que ça c'était un point, c'est-à-dire c'est des défauts qu'on retrouvait chez les Quraysh, mais qu'on retrouvait chez toutes les personnes à qui la prêche leur était destinée par les autres prophètes, mais qui n'acceptaient pas le message de leur prophète. L'orgueil, la fierté et un cœur qui est dur, un cœur de lequel il n'y a pas 1% de rahma, il n'y a rien de bien. Et on avait vu la réaction du peuple de Noé et de Nuh alayhi salam lorsque Nuh alayhi salam les avait invités vers la religion d'Allah azza wa jal. Quelle fut leur réponse? Si quelqu'un a le verset est-ce qu'on va te suivre alors que وَتَّبَعَكَلْ أَرْذَلُونَ, c'est bien le verset, est-ce qu'on va te suivre ô Nuh alors que nous ne voyons autour de toi que les faibles, le sens du verset, il n'y a que les pauvres, il y a des personnes qui n'ont aucune notoriété dans la société, il n'y a pas de riches, il n'y a pas la noblesse, personne d'important entre guillemets ne te suit, il n'y a que les pauvres qui te suivent, et tu veux que nous, notables de cette ville, on va te suivre. Donc ça s'appelle quoi ça? L'orgueil, la vanité, la fierté, at-takabbur, le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'on est dans le tort et voir la vérité qu'une personne, nous propose. Ibn Kathir rahimahullah, dans ce verset, là, si on retrouve la page, enfin, on était une page trop loin. Voilà, justement, on cherchait le kalam des kathirs, on n'était pas à la bonne page. Donc, أَيْتَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِلَا أَجْرٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ أَوْ مُحَمَّدٍ. Certainement, la prêche que tu fais, c'est avec sincérité et tu ne leur demandes rien. Et c'était là la sunnah d'Allah pour tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Lorsqu'on a les couplets de versets de le Coran où on parle de l'histoire des prophètes, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Ou alors, ya qawmi la as'alukum alayhi mala. C'est ce qu'ils disaient toujours le peuple. Je ne vous demande rien. Et les savants, rahimahumullah, ils rappellent ce principe que la da'wa ilallah ne doit pas être conditionnée par une contrepartie. C'est pas que voilà, on fait un programme, ça coûte tel prix, ainsi de suite. Maintenant, on sort un petit peu du contexte pour arriver à un contexte un peu plus contemporain, on va dire. Maintenant, il y a des associations où il y a nécessité de régler quelque chose quand il y a un programme, un séminaire. Ça, c'est lié à tous les frais techniques. Location d'une salle, les repas qui sont servis. Là, on va dire que c'est tout à fait compréhensible. Mais pour la da'wa en elle-même, les prophètes alayhimu salat wa salam faisaient la da'wa, on dit pas bénévolement, lillah, c'est amplement suffisant. Lillahi azza wa jal, pour Allah azza wa jal. Et ça doit être quelque chose que le croyant fait avec cœur et pour lequel il doit être capable de faire n'importe quel sacrifice. S'il faut se déplacer pour aller d'un quartier à un autre, on quitte la Tanya pour aller au Camélia, au Belle-Pierre, juste pour rendre visite à un frère qu'on ne voit plus à la masjid depuis quelque temps et qu'on se dit que peut-être la dunya est entrée dans sa vie, dans son cœur. Pas de sa vie, de son cœur. La dunya rentre dans votre vie, il n'y a pas de mal. Mais la dunya entre dans votre cœur, ça c'est un problème. Vous voyez la nuance? Que vous ayez un travail, un boulot et que ça prend du temps, il n'y a pas de mal. Talabu kasbil halal, travailler pour avoir sa subsistance licite, ça c'est sharaf, ça c'est un grand honneur et c'est un des devoirs du croyant. Mais ce dunya fait en sorte qu'il reste dans ta poche et que ce dunya n'entre jamais dans ton cœur. Donc si on voit un frère qui ne vient plus à la mosquée, on peut se dire que peut-être il y a ses awamil, ou alors il y a des waswasa de shaitan, ou alors peut-être qu'il est tout simplement malade. Bref, ça c'est une réaction de mu'min de se préoccuper spirituellement bien sûr de son frère musulman, pas aller chercher de quoi il fait sa vie, non, spirituellement, lorsqu'on sent qu'il y a peut-être une faiblesse spirituelle, on doit répondre présent et on n'a pas à se dire que chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie dans son orientation, on va dire, familiale, sentimentale, économique. Ça, oui. Ça, effectivement, le prophète a dit, « La yu'minu ahadukum » Alors, subhanallah, le hadith, « Min husni islamil mar'i »« Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni » Min husn islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ma la ya'ni, c'est-à-dire ça fait partie des qualités de la perfection de la foi que le fait de délaisser ce qui ne te concerne pas. S'il s'agit de quelque chose qui ne te concerne pas directement, dans ce cas ne pose aucune question. N'essaie pas de butiner autour, de mener l'enquête, butiner encore, je suis très soft, mais il y en a qui vivent que pour les histoires des gens. Le fameux terme en Gujarati, c'est quoi? Panchat. Ah, nanayam, c'est... Là, quand ils entendent qu'il y a un petit truc, ils mettent la cape avec P. C'est pas Superman, c'est Panchatman. Et ça, ils aiment ça. Il y en a qui vivent pour ça. Ils ont entendu qu'il y a un problème. Là, c'est comme si qu'ils se mettent à table, ils mettent un couteau, une fourchette. Ils sont prêts là. On va manger la viande de notre frère. Yuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi maytan. Il y a des gens qui adorent ça. Et ils le font au toit d'un repas, en plus. C'est-à-dire qu'avec le biryani que, mashallah, tu as commandé avec le voisin, le meilleur biryani de la Réunion, et il n'y a pas besoin de rajouter de la viande de ton frère. Il n'y a pas besoin de rajouter la chair de ton frère. Pourquoi? Tu as déjà ton biryani niveau, hein, Salih? Bien à niveau, il est amplement suffisant. Hein? Il n'y a pas besoin de rajouter la viande aux camarades. Et ces majalis de riba, de bohtan, et qui débouchent chez le namima, très souvent, ça se passe dans les réunions de famille. Quand tout le monde est réuni, on cherche un sujet de conversation. Ikhwani fillah, on sort du sujet, mais on reste dans ce qui nous préoccupe et ce qui fait notre faiblesse. Ça, ça fait notre faiblesse. Ça, ça grignote nos a'mal salihah. Ça, ça nous fait prendre les péchés de cette personne le jour de Qiyama. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, avait entendu que des personnes, déjà citées, hein, le critiquaient, disaient des paroles désobligeantes à son égard, des mensonges ou des critiques. Hassan al-Basri, rahimahullah, prépare un sahan, un plateau de rutab, de dattes. Et il va voir les personnes qui disent ces paroles sur lui. Il dit, voilà, ça c'est un cadeau pour vous. Déjà, les personnes ne l'aiment pas trop, ils ne comprennent pas pourquoi Hassan al-Basri nous apporte ce plateau. Il dit, hadi hadiyatun lakum. C'est un cadeau pour vous, parce que j'ai entendu qu'en mon absence, ben vous me critiquez et vous dites des paroles désobligeantes me concernant. Et je suis tellement content parce que quand une personne fait le riba de notre personne, il est en train de laver ses péchés. Et donc, jazakumullah khair. Parce que les péchés que j'ai là, ça c'est quelque chose de lourd. Et je ne veux pas les amener avec moi le jour des comptes. Donc, si vous vous êtes là pour les laver, les récupérer, c'est un acte de bienfaisant. Voilà donc un cadeau. C'était pour que les personnes comprennent que la riba, déjà le fait de parler sur une personne, ça t'apporte quoi? Ça ne t'apporte rien. Et spirituellement, ça te détruit, ça consume tes bonnes actions. Jour de Qiyama, la personne viendra te retrouver et voudra qu'il y ait justice. On doit donc faire attention, ikhwani fillah, avant ce discours, on l'adressait aux dames. Parce que c'était les femmes qui avaient l'habitude de parler sans être misogynes, hein, mais c'était un peu de la nature. Maintenant, nous sommes dénaturés. Maintenant, tout le monde, même les hommes s'y mettent. À travers les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux, on parle des gens, on critique gratuitement. On entend qu'il y a eu, il paraît qu'il y a eu un problème là-bas dans telle ville, dans telle mosquée. On va essayer de trouver les informations. Dis non, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Bref, combien de temps tu es en train de perdre? Combien de temps on est en train de... Donc, tout ce qui concerne la vie des gens, tarkuhu ma la ya'ni huwa al-awla. Ne pas s'en préoccuper, c'est la règle de base. Maintenant, si ça concerne son din, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de détourner ton visage. Tu n'as pas le droit de te dire que c'est sa vie. Non, sa vie, c'est ta responsabilité. Parce que tu fais partie d'un maillon. Kuntum khayra ummatin. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'roufi. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une spécificité de cette umma. Et c'est un devoir pour chaque croyant en fonction de ses compétences, en fonction de sa connaissance, en fonction de sa capacité à prêcher. Avec la hikma, avec la sagesse, avec toutes les qualités qu'on a retrouvé à travers la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant qu'une personne se dise que ben, il vient à salat, c'est bon, il vient pas, c'est son problème, ça ce n'est pas la réaction d'un mu'min. Et le fait d'aller lui faire un rappel, ça nécessite de l'humilité. C'est-à-dire que tu vas l'aborder, tu vas l'adresser des paroles correctes. D'abord tu vas prendre de ses nouvelles et ainsi de suite. Et même si tu n'apprécies pas la personne, tu vas te rabaisser devant lui pour Allah, pour faire passer le message d'Allah. N'est-ce pas là une action magnifique exceptionnel. Et si cette personne revient vers le droit chemin par une parole, la personne a ressenti que cette personne se fait du souci pour moi, c'est que peut-être le fait que je n'accomplisse plus mes salats en jama'at, c'est mauvais. Il y a parfois des personnes qui sombrent peu à peu dans les waswasa de shaitan, dans les insufflations de shaitan, qui te fait dire que ben, en retournant du travail, tu es fatigué. Ou alors entre midi et deux, tu es fatigué, en ce moment il fait très chaud, vaut mieux tu prends ton repas, tu fais ta prière dans la chambre climatisée, avec khushu, avec dévotion, avec concentration, parce que tu es sur ton gros musalla, la chambre elle est bien climatisée, tu as des vêtements propres, tu as pris un bain, c'est beaucoup mieux que d'aller à la masjid, et là il fait chaud, il y a plein de gens et tout. Là, la salat en congrégation jama'a, ça c'est le miftah, ça c'est la clé. Et Shaitan, il sait que ça c'est la clé. Et il essaie au fur et à mesure d'enlever l'importance de ton cœur. Donc, qu'une personne parfois se décide de prendre un peu de retrait par rapport à la masjid, mais si elle voit que personne ne vient vers lui, Il va penser que c'est normal. Et s'il voit qu'il y a plein de gens qui réagissent, ça lui permet de prendre conscience que, ah ben donc, c'est pas bien, alors mon jugement n'était pas le bon. C'est-à-dire que l'homme, le mu'min se construit à travers le regard des autres aussi, qui est un miroir pour lui. Bon, s'il y a des défauts, il voit ses défauts, mais également à travers l'avis, l'opinion des gens, il avance. Il voit peut-être que mon avis était erroné. Donc, concernant le dîn, c'est une responsabilité. Et le mu'min doit le faire avec cœur, engagement et sincérité, qu'Allah nous accorde cette qualité. Jamais le prophète n'avait demandé quoi que ce soit au Quraysh. Et d'ailleurs, quand on fait un travail noble comme la da'wa ilallah, l'enseignement, et d'une façon générale, le comportement du mu'min doit être tel qu'il ne doit jamais solliciter les gens, il ne doit jamais demander quoi que ce soit aux gens. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam a cité les qualités qui fait qu'une personne sera aimée des gens, et parmi les qualités que le prophète a cité, c'est az-zuhd 'amma fi yadin nas yuhibbuka an-nas. Faire en sorte de ne pas demander quoi que ce soit aux gens et de ne jamais montrer que tu es intéressé par ce qu'une personne possède. Et là, yuhibbuka an-nas, les gens vont t'aimer. Mais lorsqu'on a en face de toi quelqu'un qui commence à demander, à solliciter, là ça devient compliqué. Et là, en termes de relation de muhabba, ça risque de fragiliser cette relation. Ah, donc ça c'est le commentaire d'Ibn Kathir rahimahullah. On a trouvé une parole de Sa'adi rahimahullah, on parlait de Taysir al-Karim al-Rahman, l'autre tafsir. Et il y a dans les versets qu'on a vu aujourd'hui, il y a pas mal de choses dans cet autre livre que Ibn Kathir n'a pas cité. Et ce sont des paroles vraiment extrêmement enrichissantes. Il dit que le fait que ces personnes se détournaient du prophète alayhi salat wa salam, c'est pas qu'ils n'aimaient pas le prophète alayhi salam. C'est pas, premièrement, qu'il n'aimait pas la personnalité du prophète, parce qu'on le considérait comme Al-Amin jusqu'à maintenant. Bien. C'est pas non plus qu'il voit que c'est un enseignement erroné ou qui va à l'encontre du bien de leur peuple ou de leur nation ou de leur personne, ou que c'est un enseignement qui est incohérent aucunement. Chaque Quraysh qui écoutait le Coran était perturbé parce qu'il reconnaissait qu'il y a une beauté dans les versets, mais il y a également une profondeur de le sens. Et ces personnes douées d'intelligence, ça les embêtait d'entendre les versets parce que ça touchait leur cœur, c'est haqq. Donc ce n'est pas la personnalité du prophète qui leur posait problème, ce n'est pas non plus le message, ni le contenu du message. C'est uniquement l'orgueil. Ils ne voulaient pas que le Mohammed sallam arrive à un grade, à un niveau de reconnaissance à Makkah, que eux, Zu'ama, chef de tribu de Quraysh, et reconnu dans toute la péninsule arabe, ils perdraient ce rang. Et ils deviendraient de simples serviteurs d'Allah. Donc c'est uniquement le kufr, al-inad et l'orgueil. Et avec ça, un soupçon de jahl, d'ignorance. Les personnes qui sont bornées, qui ne veulent pas voir la vérité et la guider en finalité, elle est dans les mains d'Allah. Azza wa jal hadha. Am indahumul ghaibu. On essaie d'avancer. Am indahumul ghaibu. Fahum yaktubun. ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها انهم على الحق. Ça, c'est Sa'd ibn Kathir n'a pas commenté ce verset, malheureusement. Et Sa'd rahimahullah, donc il explique qu'ils n'ont aucune source. Les Quraysh n'avaient aucune source ou aucun moyen de se ressourcer spirituellement. Ils n'avaient rien. Donc c'est pas qu'ils avaient une autre source de ghaib, d'invisible, aucunement. Ça veut dire, Ibn Sa'd il conclut, wa innama كانت حالهم حال معاند ظالم, que leur situation en finalité c'était la situation d'oppresseur et de personnes remplies enflées d'orgueil. Falam yabqa, et face à ce genre de personnes, et on a tous rencontré dans notre vie des gens comme ça qui sont bornés, orgueilleux, fiers. Et du coup, là je parle plus du dîn forcément, mais même dans une relation de travail ou familiale ou quel que soit le problème qu'on a réglé, et que la vérité est dans ton camp. Mais quand on a en face de soi une personne qui est orgueilleuse, qui est fière, ainsi de suite, c'est lutter, c'est parler à un mur. C'est parler à un mur, d'accord ? Et ça n'apporte rien. Et donc, la réaction que le prophète se devait d'avoir, Sa'di rahimahullah, il explique que fa wa innama. Non, donc ça on a cité, فَلَمْ يَبْقَى إِلَّا الصَّبْرِ, لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوة. Voisin, se devait donc de se montrer patient face à leur méchanceté verbale et les agressions physiques qui allaient suivre. والتحمل, et prendre sur lui. Être assobre, c'est la patience, mais التحمل, c'est prendre sur soi. C'est passer au-delà de leurs paroles et continuer. Et la troisième réaction, والاستمرار على الدعوة, et continuer. Ne pas s'arrêter parce qu'ils ont cette réaction, persévérer avec espoir qu'un jour ils auront la guidée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait preuve de patience, de persévérance, et il a continué à prêcher. Et du coup, des personnes qui avaient une haine contre l'islam, mais certains ont accepté. Comme Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. C'est pas parce que Umar ibn al-Khattab avait eu un mauvais comportement au début que le Prophète l'a considéré comme quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est perdu. Non, le Prophète a continué à développer les meilleurs traits de caractère et a fait doua pour lui. Il dit, oh Allah, choisis soit Umar, soit Abu Jahl. Allah Rabbul Izzah a choisi Umar ibn al-Khattab. Un autre ennemi de l'islam, Abu Sufyan, après combien d'années, lors de la conquête de Mecca, il a accepté la shahada alors qu'il était un ennemi déclaré. On a bien sûr l'exemple de Hind, radiallahu anha, ainsi que de Wahshi, celui qui avait assassiné Hamza, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, les a acceptés. Donc le prophète a fait preuve de patience, de persévérance, et il a continué à prêcher. Quelle est la leçon qui nous concerne directement? Les mufassirin, rahimahumullah, les contemporains, ils rappellent que, à travers ce verset, on doit retenir que le mu'min se doit de prêcher, d'inviter vers l'islam et de ne jamais désespérer. Ne pas s'arrêter à la méchanceté des gens. C'est pas parce que vous avez un problème dans cette mosquée, ou vous avez été insulté par une personne dans la jamaat ou qui vous a fait du tort, vous dites que ben, ça sert à rien, il n'y a plus d'intérêt à aller voir ces personnes ou aller dans ce quartier, aucunement. Car Nabiullah était insulté par les gens de sa propre famille, de sa propre tribu, mais le Prophète n'a jamais cessé de prêcher, de montrer le bon exemple, et son comportement jusqu'à ce qu'il quitte Mecca a été exemplaire avec le Quraysh. Et lorsqu'il est revenu à Mecca pour la conquête de Mecca, là aussi il a eu un comportement exemplaire en accordant la liberté à At-Tulaqa, à ses ennemis. Hada. Ensuite, il y a le message Fasbir. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahib al-hut idh nada. On est au verset 48. L'Allah Azza wa Jal demande de faire preuve de patience. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur. Et c'est ce terme qui nous intéresse. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique qu'à travers ce verset, Allah Azza wa Jal demande, Ya Muhammad, isbir ala adha qawmik laka, ala adha qawmika laka, wa takdhibihim. Et As-Sa'li rahimahullah, il complète en disant que Allah Azza wa Jalla demande au Prophète certes d'être patient face à leur méchanceté, face à leurs accusations, face à leurs paroles, face à leurs agissements. Mais également, et là c'est plus profond, sois patient par rapport à cette situation. La situation qu'Allah a décrétée, la situation de al-usr, de difficulté. Alors qu'Allah aurait pu décréter que dès le début de la révélation, quand le prophète alayhi salat wa salam était monté sur la montagne de Safa pour inviter les Ahli Makkah vers l'islam à travers cette parole éloquente, ô gens de Makkah, si je vous dis, qui complète, qu'il y a une armée derrière cette montagne qui s'apprête à vous attaquer, est-ce que vous me croyez? Les Quraysh, à l'unanimité, ils ont dit oui. Pourquoi ils ont dit oui? Parce que c'était Al-Amin, l'homme de confiance, véridique, honnête, celui qui ne mentait jamais. Et là, le Prophète m'a annoncé que je suis le prophète d'Allah et je vous mets en garde contre un châtiment qui risque de s'abattre sur vous. Et à cet instant, Allah aurait pu décréter que la guidée touche chaque personne. Et que lorsque le Prophète m'a invité les membres de sa famille chez lui pour un repas, et que c'est à cet instant qu'Abu Lahab s'est rebellé et il a dit tabban laka alidhalika da'utana, que tu périsses. C'est uniquement pour ça que tu nous as réunis. Dans certaines sources, on dit que c'était près de la montagne de Safa. Dans d'autres sources, c'était lors de l'invitation. L'invitation, ça concerne que sa famille. À cet instant, Allah aurait pu décréter qu'Abu Lahab accepte l'islam. Et qu'Abu Jahal accepte l'islam. Et que son din soit porté par ses zouama de Quraysh. Et que toute la ville de Makkah accepte l'islam. Est-ce que cela était possible pour Allah? Sans le moindre doute. Mais Allah a décidé que les choses se passent différemment. Et difficilement surtout. Et que ces 13 années de Makkah, ça va être des années extrêmement difficiles. Et que jamais un prophète n'aura connu autant de difficultés dans sa prêche que le prophète alayhi salatu wassalam l'a connu pendant ses 13 premières années à Mecca, plus ce qu'il va subir ensuite à Madina, parce qu'à Madina il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, mais il y a les ennemis cachés, c'est ce qu'on appelle les munafiqin. Donc le prophète salam va connaître adha, difficultés, trahison, subhanallah, en plus des tribus avec lesquelles il avait signé des pactes de non-agression. Ils vont rompre ces pactes, ils vont essayer de l'assassiner, ils vont s'allier avec les ennemis. Il y a quantité de situations qui étaient défavorables à la prêche. Allah demande au prophète sallam, fasbir, sois patient. Sois patient parce que c'est Allah qui a décidé que la situation soit ainsi. Si Allah voulait que ça se passe d'une autre façon, ça aurait été kun fayakun, oui ou non? Sans le moindre doute. Et là, il y a une grande leçon pour nous. Et cette parole, ce verset fasbir, c'est l'ordre d'Allah que le prophète, bien sûr, mettait déjà en pratique, mais c'est également pour les sahaba, c'est également pour nous. Soyons patients, parce que toute situation que nous vivons, ce sont des situations qui ont été créées par Allah. Ce sont des situations qui ont été décidées par Allah. Jamais un musulman ne doit s'acharner, on va dire, contre le destin, se rebeller contre le destin. Pourquoi moi? Pourquoi les choses sont comme ça? Certes, on essaie d'y remédier. On essaie de trouver des solutions. Et c'est là le mujahada. C'est là le sacrifice, l'effort. Il y a une situation difficile. On essaie de trouver l'issue. Mais ne te plains jamais de ta situation. Et là, c'est moi qui rajoute. On extrapole un petit peu et on écarte, on étire l'analogie. Mais ça revient vers le principe d'acceptation du décret d'Allah. Fasbir li hukmi rabbika, endure avec patience la sentence de ton Seigneur par rapport à la situation à Makkah. Et nous, ce qu'on retient, et ça rejoint d'autres versets, d'autres hadiths, que toute situation que nous vivons, c'est décidé par Allah. On se doit d'être patient et de travailler, d'œuvrer pour améliorer la situation, tout en sachant que rien ne s'améliorera ou ne changera sans l'ordre d'Allah. Donc, nécessité de faire, d'associer doua et effort. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été patient. Il a été patient lorsqu'il est parti à Taïf. Il a été patient et persévérant lorsqu'il était à Uhud et qu'il a subi autant de difficultés, tombé dans un trou que les mouchriquines avaient creusé, où il a reçu une pierre où sa dent s'était cassée, où un morceau de son casque était entré dans sa joue, où il a été, subhanallah, il a connu tellement de difficultés à Uhud, à Taïf et dans toutes les situations, hadith al-ifk. Lorsqu'on a accusé Aïcha, là on quitte les Makki pour aller à Madini. Mais d'une façon générale, dans sa mission, le prophète alayhi salatu wassalam a été patient et il s'en remettait à Allah azza wa jal. Il savait que toute situation, ben, ça provenait d'Allah. Et ça, c'était un réconfort, ça, oui ou non? À notre époque, ce qu'on voit autour de nous, cette islamophobie qui est en train de se généraliser et qui est en train de rendre la vie du musulman extrêmement difficile. Allah seul sait. Qu'est-ce que les années qui viennent nous réservent? Allah nous protège de ce qui nous sera néfaste. Et qu'Allah fasse ce qu'il y a de mieux pour les croyants. Et donc, quelle que soit la situation que nous vivons ou que nous allons vivre, on doit garder à l'esprit que ce que le prophète et les sahabes ont vécu, c'était mille fois plus grave. Quand la famille de Al-Yassir, le père, la maman et le fils étaient attachés à des poteaux, persécutés jusqu'à la mort, et que le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait rien faire alors qu'il passait près de ces personnes. Et quelle était sa phrase magnifique? Sabran ya Ali Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Soyez patients, ô famille aux tribus de Yasir, sachez que votre rendez-vous, c'est le paradis avec Allah. Sachez qu'Allah vous a donné un rendez-vous sur le Jannah. C'est la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire. C'était une parole encourageante. Et c'était amplement suffisant pour aller à Yasir. Parce que la foi était entrée d'une telle façon dans leur cœur que les personnes étaient attachées, persécutées jusqu'à la mort. Ils savaient qu'il reste un instant pour qu'ils retrouvent Allah azza wa jal. Aucun attachement pour nos biens, pour nos enfants, pour nos terres, pour notre troupeau, pour qu'est-ce qui va se passer après. Ils savent que ça c'est dunya. Et que le plus important c'est être accepté par Allah, et que c'était là une chance presque de se sacrifier parmi les premiers musulmans pour Allah Azza wa Jal. Ça c'était quwwatul iman, c'est un autre niveau de foi. Et quand le prophète dit cette parole, comme on a dit, c'était amplement suffisant. Mais Allah a décrété que cette situation terrible se déroule sous les yeux du prophète. Et vous ne pensez pas que, d'une certaine façon, c'est comme si que le prophète me culpabilisait. Après, je m'avance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut ressentir que ces gens-là ont accepté ma mission et voilà qu'est-ce qui leur arrive. Mais le prophète arrivait à dépasser ça. Le prophète arrivait à dépasser ce sentiment de culpabilité et à intégrer que ça, il y a un terme qui décrit cette situation, c'est « sunnatullah ». La sunnah d'Allah. Et c'est comme ça qu'Allah agit avec les gens qui l'aiment. Et on n'a qu'à analyser l'histoire de Moussa alayhi salam, par exemple, pour voir toutes les difficultés que Moussa a connues, toutes les épreuves que sa maman a vécues depuis qu'elle attend l'enfant, depuis la naissance, ainsi de suite. On a eu l'occasion de développer ça dans Bidnillah, la surah Taha, dire que tout ce qu'on pouvait souhaiter, tout ce qu'on pouvait, on va dire plutôt imaginer comme situation favorable pour la mission de Moussa alayhi salam, ben il n'y avait rien qui se réalisait. Tout allait, j'allais dire de travers. Non, tout allait dans un autre sens. Tout était défavorable. Moussa alayhi salam naît l'année où on tue les enfants. Parce que quand l'armée de Pharaon avait décidé de tuer tous les bébés, Ibn Israël, à un moment donné, s'était rendu compte que s'ils continuaient à agir de cette façon, ils n'auront plus de main d'œuvre. Donc ils ont décrété que une année on tue les garçons et une année les garçons et une année on ne les tue pas. On aurait pu espérer, enfin j'ai dit ça, que Moussa alayhi salam naisse l'année on ne tue pas, pour qu'il grandisse, voilà. Mais non, Allah décrète qu'il va naître l'année où on tue les enfants. Difficulté sur difficulté. Ibtila sur ibtila. Sunnatullah. Yunus alayhi salam. On emboîte avec la suite du verset, on avance quand même ce soir. Wala isbil fasbil li hukmi rabbika. Wala takun ka sahibil hout. Si on dit hout, ça vous dit quoi hout? Hout c'est quoi? Poisson. On traduit par baleine aussi. Idhnada wa huwa makdhum. Et ne sois pas comme l'homme au poisson, c'est-à-dire Jonas, Yunus alayhi salam, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Donc, Yunus alayhi salam, lui, à un moment donné, il n'en pouvait plus. À un moment donné, Yunus alayhi salam a perdu patience face au kufr de son peuple et il était mécontent. Ibn Kathir dit, Yani Zannoun, Yunus, وهو يونس ابن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه فكان من امره ما كان الى اخر الكلام. Lorsque Yunus a quitté son peuple extrêmement colère parce que son peuple n'acceptait pas le message, parce que son peuple il continuait donc à aller dans le mauvais sens, à refuser la prêche, et donc il était en colère. Et Yunus عليه السلام va être éprouvé par Allah Azza wa Jal. Quelle fut l'épreuve de Yunus alayhi salam? Là aussi, on voit à travers l'épreuve de Yunus alayhi salam une situation qui a été créée par Allah. Yunus embarque sur un bateau. Et lorsqu'ils sont en mer, ils se rendent compte que le bateau va couler parce qu'ils sont trop nombreux. Situation créée par Allah. Ils disent qu'il faut absolument que quelqu'un saute, et ils étaient déjà en mer, là. Je veux dire, celui qui saute, c'est compliqué. Soit il arrive à nager des kilomètres et vers le banc, ou alors, mais il fallait que quelqu'un se sacrifie. Voilà donc. Autrement, le bateau allait couler et tout le monde allait mourir. Donc, ils ont fait un tirage au sort. Et c'est le nom de Yunus alayhissalam qui est sorti. Et je dois vérifier l'histoire. Si je ne me trompe pas, c'était à 3 reprises. Dans Sirat de Ibn Kathir, dans Tarikh de Ibn Kathir, si je ne me trompe pas, à 3 reprises, c'est le nom de Yunus alayhissalam qui est sorti. Et les personnes sur le bateau, ils connaissaient c'était qui Yunus ibn Matta. Ils étaient peinés. C'est pour ça que, si je ne me trompe pas, ils ont essayé de refaire 2 fois, 3 fois. À chaque fois, c'était son nom. Yunus alayhissalam, prophète d'Allah, accepte la situation qui a été décrétée par Allah. Al-istislam ou l'il-qada et l'il-qadr. Et Yunus alayhissalam se jette à l'eau, comme c'était convenu. Et lorsqu'il tombe dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Il est avalé par une baleine. Et dans cette situation de ظلمات ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Bon, après il y a d'autres versets qui décrivent cette situation. إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Le fameux dua de Yunus عليه السلام et des أنبياء عليهم الصلاة والسلام. On peut qualifier ça le dua de difficulté plus fort, de détresse. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. C'est le doua de détresse et qu'on adresse à Allah Azza wa Jal lorsqu'on est dans une situation d'angoisse. Et Yunus alayhi salam, il demande ce doua dans l'obscurité totale, dans 2 obscurités. Première obscurité, l'obscurité du ventre de la baleine. Et deuxième obscurité, l'obscurité de la mer. Une baleine nage à combien de mètres de profondeur? Enfin, je vous demande ce que je ne sais pas, en fait. Mais j'imagine que ça nage au fond, ça. Moi, j'ai rarement vu des baleines flotter. D'accord? Ça va au fond, je pense, au fond de l'océan. D'accord? Donc, l'obscurité, en plus de le ventre de la baleine. Et si je ne me trompe pas, cette histoire, on a vu ça il y a très longtemps. Ibn Kathir, dans Tarikh, il cite que Allah aurait demandé à la baleine de ne pas blesser Yunus alayhi salam, parce que c'était une épreuve. La baleine ne devait pas manger Yunus alayhi salam, mais l'éprouver. Et Allah éprouve ceux qu'il aime. Première leçon, Allah éprouve ceux qu'il aime, avec ou sans l'intermédiaire, et quel que soit l'intermédiaire. Ibrahim alayhi salam, son épreuve c'était, enfin subhanallah, parmi ses épreuves, parce qu'Ibrahim, Allahu Akbar, il en a connu des épreuves, ibtala. Parmi les épreuves, c'est An-Nar, le feu. D'accord? Yunus alayhi salam, c'est cette baleine al-hut. Et donc, dans cette situation, il a invoqué Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et quelle fut la réponse d'Allah? Avant de voir la réponse d'Allah, Ibn Kathir cite que lorsque Yunus alayhi salam a fait ce doua, kharajat al-kalimatu. Cette parole est sortie et elle s'est mise à tahuffu hawla al-arshi, à tourner autour du trône d'Allah. فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. يا الله, cette voix, c'est une voix affaiblie, mais une voix qui est معروف, une voix qui est connue, qui vient d'un endroit. Et Allah Azza wa Jal a dit, أما تعرفون هذا, est-ce que vous savez c'est qui? Et les anges, ils ont dit, là, ya Allah, on ne sait pas. فقال هذا يونس, dit, c'est mon prophète Yunus. Et les anges ont demandé, ya Rabb, عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة المجابة. Et les anges citent les qualités que cette personne qui régulièrement ses actions montent aux cieux et ses doigts également. Et Allah Rabbul Izzah dit, na'am, qalu afala tarhamu ma kana ya'maluhu fi ar-rakha. Demandez, oh Allah, n'as-tu pas de la pitié, de la compassion pour la personne qui t'invoque dans toute situation, dans les situations d'aisance, et qui maintenant t'invoque dans une situation de détresse, de difficulté. Est-ce qu'Allah a besoin que les anges lui demandent ça? Sunnat d'Allah, afin qu'on l'entende aujourd'hui, et que les sahaba le répètent, et que les croyants l'écoutent et en profitent. Tout ça, c'est l'organisation d'Allah. Allah aurait pu créer des situations différemment. Allah aurait pu tout changer et Allah, tout est dans ses mains. Allah décrète que les anges, ils prononcent ces paroles et Allah accorde l'acceptation à ce doua. Fa amara Allahu al-hout fa alqahu bil'ara, et la baleine a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jalla de laisser sortir Yunus alayhi salam, situation d'épreuve créée par Allah pour son prophète, et Yunus ne s'est pas plaint de cette situation. Il a dit la ilaha illa ant, il n'y a pas d'autre dieu à part toi, subhanak, fais louange à Allah, inni kuntu minaz zalimin, pas minal mazloumin. Il aurait pu se dire que ana minal mazloumin, je suis opprimé, regarde, je suis là, perdu, alors que j'ai passé ma vie après chez le haq. Il dit que je suis parmi les oppresseurs, je me suis fait du tort. Jamais Yunus et jamais Ibrahim, jamais Moussa, jamais aucun prophète ne s'était plaint de leur situation, de leurs épreuves, parce qu'ils savaient que c'est la sunna d'Allah. La leçon que nous retenons, c'est que dans notre vie spirituelle bien sûr, mais également dans notre vie familiale, quelle que soit la situation, ce sont des situations qui ont été décrétées par Allah, on s'en remet à Allah, on est patient et on fait les efforts accompagnés de dua. Idhna dawa huwa makdhum, on complète le verset. Non, là on est parti dans le dernier verset. Laula idnada wa huwa makdhum, laula antadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil'ara'i wa huwa madhmum, fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin. Si un bienfait de son seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son seigneur l'élu du verbe élire, l'élu, et le désigna au nombre des gens de bien. Ibn Kathir rahimahullah, il explique que Allah Azza wa Jalla a eu donc pitié de Yunus alayhi salam, a accepté son doua et lui a accordé un rang encore plus haut. Et As-Sa'di rahimahullah, il donne une explication encore meilleure que celle d'Ibn Kathir. As-Sa'di rahimahullah, où il explique que ولكن الله تغمده برحمته, Allah a eu pitié de lui, وصارت حاله أحسن من حاله الأولى, sa situation est devenue meilleure qu'avant, il a été accepté par Allah Azza wa Jal, فجعله من الصالحين, et le désigna au nombre des gens de bien. Et le mot salih, hein, salih, tu as un prénom magnifique. Le terme, l'adjectif salih a été commenté par As-Sa'di. Qui sont les salihin? Ay, alladhina saluhat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum. Les personnes dont les actions, les paroles et même les intentions sont bonnes, correctes et agréées par Allah. Wa ahwaluhum, et toute leur situation. Et voilà donc le rang qu'Allah a accordé à Yunus alayhi salam, et l'exemple qu'Allah a donné au prophète alayhi salatu wassalam, et la vie de tous les prophètes, c'était un encouragement pour notre prophète alayhi salatu wassalam. On va s'arrêter à là, inshallah. Il nous restera la prochaine fois le verset que je sais que beaucoup attendent, et qu'on a eu des messages sur internet, on veut connaître le sens de ces versets, les versets concernant le ayn, le regard, d'accord, parce qu'en plus de porter atteinte par les paroles, par la désinformation et parfois par les atteintes physiques sur lui ou ses proches, les mécréants, ils regardaient le prophète avec un regard envieux, rempli de méchanceté et de mauvaises intentions. Mais bien sûr, Allah avait protégé le prophète de ses mauvais regards, et ça nous permettra de développer un peu ce point concernant ce qu'on appelle Al-Ain, le regard, et mettre en avant les hadiths qu'Ibn Kathir a cités concernant le mauvais regard, qui est quelque chose de vrai. Ce n'est pas de la superstition, d'accord? On doit avoir un juste milieu entre celui qui ne croit pas, qui dit ça c'est de la superstition, c'est n'importe quoi, ou l'autre extrême, les personnes qui en font une obsession. Hein, il m'a regardé, donc c'est normal que je suis malade et tout. Il m'a regardé, donc c'est pour ça que j'ai un problème. Bon, ça va. Il a des yeux pour regarder aussi. C'est pas toutes les paires d'yeux qui sont néfastes. Donc, d'accord? Parce que certains comportements peuvent aller jusqu'à un shirk, en pensant que lui, il peut faire du tort. Il nuit à tel. Attention, c'est bi'idhnillah. Tout est conditionné par l'ordre d'Allah. Ces deux points-là qui, on va dire, c'est très intéressant. Il y a pas mal de hadith qui a été cité par Ibn Kathir, rahimahullah. Il en a fait, mashallah, 2, 3, 4, 5 pages, 6 pages cette page Ibn Kathir, c'est les grandes pages que j'ai, hein, sur le Ain, on va essayer, Inch'Allah, de développer ça la prochaine fois. Mais je vous dis tout de suite, je n'amène pas les petits piments poutiers à Nazar. Hein. C'est juste, on explique les hadiths concernant le Ain. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati, Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi Rabbil Alamin, Zakum Khair.